Benoît Dutertre, votre nouveau roman s'intitule En Marche. Il est paru chez Gallimard. C'est une sorte de Candide d'aujourd'hui, un conte philosophique à la Voltaire. Vous aussi, vous vous élevez contre l'optimisme de votre époque, au fond.
Enfin, je m'élève surtout contre ce que j'appelais tout à l'heure la tyrannie du bien, d'une certaine façon.
C'est les optimistes qui
oui.
pensent que le bien peut triompher et qu'il le fera sans dommage.
C'est-à-dire que oui, c'est ça. Mon personnage, il s'appelle Thomas, c'est un jeune trentenaire plein d'ambition pour réformer le monde et il pense qu'il a les outils.
C'est un député français.
C'est un député d'une trentaine d'années qui vient d'être élu à la faveur d'un grand mouvement inattendu au Parlement. Et il croit effectivement qu'avec sa formation, ses connaissances en économie, en politique, il a les outils pour transformer le monde et que tout aille mieux avec cette espèce effectivement de naïveté qu'on a peut-être pu voir chez certains, d'une certaine façon, chez certains élus de la France d'aujourd'hui. Et en même temps, il va se heurter au fil du livre à une réalité qui est beaucoup plus complexe, à un monde qui marche pas si bien, dans lequel il y a des classes sociales, des intérêts qui s'opposent, etc. Il suffit pas comme ça d'avoir des théories réformatrices pour changer le monde.
La réalité, c'est un pays qui est considéré comme le meilleur des mondes possibles, hein, la Rugénie, qui applique un programme ambitieux, réduire les déficits publics, bien entendu, mais aussi lutter contre toutes les formes de discrimination et appliquer un programme écologique, là aussi très ambitieux. Est-ce que la Rugénie, pour vous, c'est la France ?
C'est un mélange, parce que je me suis inspiré aussi de certains voyages dans des petits pays d'Europe centrale pour la décrire au moins géographiquement. Mais l'idée, c'était effectivement un pays imaginaire qu'on va découvrir dans l'esprit de Candide, parce que c'est un livre que j'adore et j'aime bien aussi le côté finalement plus humoristique que philosophique des contes philosophiques comme ça. Donc voilà, mon personnage part à la découverte de ce pays qui est, paraît-il, un nouveau modèle, effectivement, qui ressemble effectivement beaucoup à la France. Mais l'idée... pour créer ce monde imaginaire et un peu effrayant, c'était de rassembler dans un petit territoire plein d'aspects très pointus de notre société contemporaine. Donc dans cette ville, par exemple, il y a que des véhicules à roulettes, des trottinettes, des triporteurs, des bicyclettes,
oui,
etc. qui s'écrasent tous les uns les autres d'ailleurs, mais il n'y a pas d'automobile. Dans ce pays-là, dès que vous commencez à manger un morceau de viande, on vous regarde avec des yeux furieux en prononçant le mot cadavre, évidemment, pour dénoncer.
Mais il n'y a plus risqué même, puisque votre jeune député se fait arrêter dès la descente d'avion. Tout simplement parce qu'il a souri à une femme avec son enfant et elle s'est sentie agressée.
Exactement.
Vous n'exagérez pas un peu, Benoît Dutertre ?
Oui, justement, ce livre est basé sur l'exagération. C'est une espèce de bande dessinée de notre époque. D'ailleurs, j'avais failli l'appeler, en fait, référence un peu à Tintin, Thomas et les mystères de la Rugénie, vous voyez. Donc il y a ce ton comme ça, un petit peu volontairement outré. Mais bon, effectivement, il sort de l'aéroport. Il cherche le transport qui va pouvoir le conduire en ville, mais qui finalement n'a jamais été bâti, parce que dans ce pays qui est ultra-libéral, etc., en même temps, on prône le respect de la planète, etc., mais tous les services publics sont à l'abandon. Donc chacun, finalement, est amené à se débrouiller tout seul. Et donc, il va trouver un moyen pour gagner la ville, finir dans une espèce de train de banlieue, et il voit une femme avec un bébé, et voilà, il est dans ce train, il se dit, voilà, il faut que je m'accoutume au pays, il faut que je rencontre les gens, et il lui sourit avec insistance pendant tout le trajet. Et effectivement, à la fin, elle va le dénoncer aux policiers sur le quai de la gare, et il subit un interrogatoire en bonne et due forme
et
pour savoir s'il est venu harceler les femmes en Rugénie. Voilà.
Voilà. Et elle dit on lui dit qu'elle ne l'oubliera pas de sitôt. À croire qu'on ne sourit plus aux femmes dans la société idéale, vous pensez ?
Elle sera traumatisée pendant, et peut-être ça lui reviendra même 20 ans plus tard d'une façon insupportable, ce souvenir qui justifie qu'évidemment on punisse le monsieur, en tout cas.
Alors vous l'avez dit, il n'y a plus d'automobile, il n'y a que des véhicules à roulettes, y compris sur les trottoirs, si bien que le paradoxe, c'est donc dans une société sans voiture, au fond, les piétons n'auront pratiquement plus de place.
C'est
votre théorie.
Hein. Écoutez, je fréquente beaucoup les trottoirs de Paris. Je peux vous dire qu'on a un peu peur des cyclistes de temps en temps, puisque le principe du cycliste, c'est de passer partout, de ne respecter aucune règle du code de la route et, si possible, d'utiliser donc à la fois les passages cloutés, les trottoirs, de passer au feu rouge et dans les rues à contresens. Donc, j'ai voulu un petit peu forcer le trait, là encore, mais... si vous voulez, c'est toujours voilà. L'idée du livre, c'est aussi que cette société veut faire le bien, mais en faisant le bien, elle produit finalement une espèce de violence qui ne se dit pas, mais qui finalement vaut d'une certaine façon les violences du passé. C'est, je crois, quelque chose qui caractérise notre époque.
Voilà, Yves-Marie Berset, ça
mais
aussi,
malheureusement,
ça fait que les gens de votre âge, vous pensez là aussi que
c'est ce que j'éprouve tous les jours dans mon avenue. Oui, c'est Paris demain ou même Paris aujourd'hui qui est déjà présenté là. la réalité des cyclistes qui se font n'importe quoi. Alors, on l'avait déjà vu, à vrai dire, à Tokyo ou à Amsterdam, c'est comme ça, il y a la loi des cyclistes. Au Japon, on roule sur les trottoirs.
Mais là, il dit qu'il y aura plus que les
là,
cyclistes.
Mais là, ils roulent même quand le feu est rouge. Il y a
et puis, il y a cette complication des rues. C'est-à-dire qu'il y a une voie pour les cyclistes, une pour les fauteuils de handicapés, il y en a une pour les triporteurs, etc. Enfin, une pour les trottinettes. Enfin, ces rues deviennent un peu aberrantes. Et dans ce livre aussi, une autre caractéristique que j'ai pris de notre société, que je mets dans ce petit microcosme, c'est qu'il y a une espèce de revendication à l'égalité et au respect sur tous les sujets. Donc, dans un autre genre de deux roues, plus loin dans le livre, ce sont les motards qui ont l'impression qu'on ne les respecte pas parce qu'on prétend les empêcher de rouler avec des moteurs épouvantables sur une petite route de montagne.
Mais les motards s'étaient déjà révoltés qu'on leur faisait payer la vignette, alors que tous les équipements des routes ne sont pas du tout prévus pour les motards.
Exactement. Et alors donc ils estiment qu'on attaque leur dignité, évidemment, de motards, et ça crée des conflits avec les touristes qui sont une autre communauté contemporaine. C'est-à-dire que notre société divise et oppose en même temps des quantités de groupes qui chacun revendiquent d'une certaine façon leurs droits, et c'est aussi quelque chose qui est...
Mais là, vous êtes très pessimiste, c'est que vous pensez que dans un pays comme la rue Génie, on ne fabriquera plus rien, on importera tout de l'étranger, il n'y aura plus de services publics non plus, et qu'au fond, le seul avenir possible pour les jeunes rugènes, ce sera de conduire des vélo-taxis, non plus des oui, automobiles, mais des vélo-taxis.
Mais c'est un truc qui me fascine un petit peu, effectivement, en France et ailleurs. Bon, très bien, la culture du vélo, là, on est en plein dedans... Il y a une propagande permanente et ça a des très bons côtés, d'accord. Mais il y a une espèce de retour de la force physique qui est nécessaire pour survivre, etc. C'est-à-dire tous ces jeunes gens qui n'arrivent pas à trouver de travail dans une société dont toutes les entreprises ont fermé, qu'est-ce qui reste à faire? C'est livrer des pizzas, livrer des colis, livrer des personnes en roulant sur des vélo-taxis.
Oui, il s'agit donc de pédaler tout le temps.
La force physique redevient le principal atout, le seul capital, au fond, de toute cette jeunesse désœuvrée. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passe par certains côtés.
Béza Rocher, au fait, cette société dans laquelle on commence, enfin, les plus apeurés, comme Benoît Duteur, ouais, ont l'impression que ça va être terrible. Est-ce qu'elle n'est pas née, au fond, en Californie, dans les communautés hippies dans lesquelles vous avez grandi?
Justement.
On mangeait macrobiotiques, on voulait la désindustrialisation.
Justement, en fait, j'étais étonnée quand il a dit qu'il est allé en Europe centrale pour faire de la recherche, parce qu'il faut aller sur la côte ouest des États-Unis. Là, c'est, tout est politically incorrect. Et en fait, tout le monde marche sur la pointe des pieds, mais avec le but d'être libre. Donc, en fait... ça peut être comique assez souvent, mais ça peut aussi être réellement contraignant et triste, ouais, particulièrement entre les deux sexes. Les hommes et les femmes sur la côte ouest, je suis désolée, mais la danse est perdue, c'est catastrophique.
Vous pensez qu'on ne pourra plus se reproduire?
Non, bon, c'est pas aussi catastrophique que ça, quand même.
Ah bon, quand même.
Mais je voulais citer pour vous, je viens de lire un livre qui a été rééditionné récemment, qui s'appelle Earth Abides, écrit en 49. Et je pense que ça va vous plaire, c'est à la fin, en fait, il y a eu une maladie, la civilisation est détruite, et c'est un écologiste, étudiant, professeur qui survit, et un poignet d'autres gens. Du coup, ils doivent se reconstruire une civilisation avec son regard critique sur tout le long de cette nouvelle fabrication, et en voyant aussi la dégradation de la ville et des machinations mises en place, l'eau, l'électricité, tout ça. Je pense que ça va vous
plaire. Ça s'appelle comment ?
Earth Abides.
Ça veut dire quoi en français ?
Ça veut dire la terre perdure.
Justement, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans votre pays idéal, les salles de bain, par exemple, prennent beaucoup de place, mais il n'y a que de l'eau froide, il n'y a pas de serviette, et il y a un seul éclairage.
Vous avez vu ça dans les hôtels, protéger l'environnement. Alors, je me demande toujours si c'est simplement pour faire des économies sur le nettoyage des serviettes que les hôtels mettent ça, en mettant en avant l'étiquette verte et le prétexte écologique.
Mais effectivement... Pour ne pas vous les nettoyer.
Ouais. Mais en fait, derrière ce pays qui s'appelle la rue Génie, il y a un théoricien, comme dans Candide, qui s'appelle Stéphane Gloss.
Oui, allusion à Pangloss.
Pangloss, bien sûr, qui était une espèce de théoricien qui prône, en fait, à la fois la plus grande liberté dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire donc la destruction de tout le tissu, en tout cas, de l'État, etc., et la plus grande vigilance dans le domaine des actes individuels liés à l'hygiène, à la sécurité, à la protection de la planète. Donc, c'est une espèce de, comme ça, de dictature de la vie, du petit geste de la vie quotidienne et de liberté absolue pour le commerce et pour l'entreprise. C'est comme ça que j'ai conçu
le progrès pour vous, Benoît Dupeurtre. En tout cas, le progrès tel qu'on l'entend de nos jours, c'est pas tellement une marche en avant, c'est plutôt une marche vers le pire.
D'abord, moi, je suis plutôt un tempérament optimiste. D'ailleurs, au moins, j'essaie de faire rire avec tout ça. C'est une façon de sauver la situation. Mais quand on me dit, c'est très curieux, cette contradiction de notre époque. Parce que d'un côté, on va toujours me dire, ah oui, mais tu vois les choses en noir, tu es pessimiste. Il faut pas être pessimiste. Il y a toujours eu des gens pessimistes qui ont dit que ça allait moins bien, etc. Mais en fait, notre époque ne cesse de nous répéter à longueur de temps que ça va moins bien, qu'on va dans le mur, que la planète est en train de pousser son dernier souffle, que la démographie, c'est une catastrophe, que l'économie va connaître une nouvelle crise épouvantable, que les religions, les fanatismes montent partout et qu'il y a des nouveaux conflits qui se préparent. Donc il y a à la fois ce refus du discours du pessimisme et en même temps un climat anxiogène qui est entretenu en permanence. C'est très très compliqué, ces contradictions.
Ça s'appelle En Marche, c'est paru chez Gallimard. On se retrouve dans 2 minutes.